Colloque éthique, en partenariat avec Web Radio Édition.
La conclusion de ce colloque éthique sur la santé, les liens entre santé et entreprise, on en a parlé toute cette matinée, à retrouver bien évidemment pour ceux qui ont raté le début en podcast. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis on va faire la conclusion avec vous, Sophie de Menton, présidente donc d'éthique et un invité de marque.
Mais absolument. Monsieur le ministre, bienvenue.
Merci.
Vous avez été effectivement, François Braun, à la fois médecin. Alors, j'ai envie de dire que vous étiez urgentiste, mais donc vous aviez toute votre place à la tête de ce ministère. Il faut vraiment un urgentiste dans la politique de santé française.
La question est pertinente. Alors, j'étais urgentiste, je suis toujours, d'ailleurs.
Oui.
C'est mon vrai métier. Après, faut-il un urgentiste ou un médecin à la tête du ministère de la Santé? Ou un technicien, politicien ou énarque, je ne sais pas répondre à cette question.
Non, mais en revanche, l'urgence, elle est là.
L'urgence est là. Mais ce dont je suis sûr, en tout cas maintenant, c'est qu'il ne faut surtout pas un médecin entouré de médecins ou un énarque entouré d'énarques. C'est-à-dire qu'il faut les deux, un peu comme le tandem à la tête des hôpitaux que met en avant le président de la République. Mais effectivement, c'est un ministère qui impose un engagement de tous les instants et une capacité d'analyse et de façon à serrer les problèmes, un petit peu comme un urgentiste trie les patients à l'entrée de son service d'urgence.
Alors, d'ailleurs, je vous avais rencontré quand vous étiez ministre, comme présidente d'éthique, et j'avais trouvé quelqu'un de très à l'écoute. Et alors, je peux vous le dire maintenant, je sentais qu'il y avait quand même une pesanteur de tout le système qui vous empêchait peut-être d'agir comme vous l'auriez voulu. Je ressentais un petit peu ça. Mais ce qui m'intéresse, et effectivement j'étais contente de pouvoir vous parler d'entreprise, c'est le rapport à l'entreprise, y compris dans l'univers de la santé. Mmh. Il y avait un article aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, dans l'Opinion, qui dit on en demande toujours et encore plus à l'entreprise. On les appelle au secours, on leur demande de donner des bonnes mutuelles, entre guillemets, on comprend, pour économiser la dette publique. Mais j'ai un peu l'impression que nous sommes amenés à faire tout, y compris de la prévention pour nos salariés, éviter le burn-out, on en a parlé, leur donner un sens à leur vie. Je me sens pas capable, en tant que chef d'entreprise, de donner un sens à leur vie. En même temps, j'ai envie de dire, je trouve très curieux qu'on ne consulte pas les entreprises. On leur demande des choses, mais on ne les consulte pas. Et il y a un secteur qui vous concerne vraiment, c'est que moins le public marche, plus on a l'impression qu'on veut punir le privé. Là, j'ai vu, pour une fois, je comprends un peu une grève. Les cliniques allaient se mettre en grève éventuellement parce qu'on a augmenté, peu importe la raison, l'hôpital n'est pas elle. Je crois que les cliniques privées sont remarquables, bossent très bien. C'est la même chose pour les écoles. Et donc, que se passe-t-il? Quel est ce rapport? Évidemment, santé en priorité avec l'entreprise.
Notre rapport sociétal avec l'entreprise est compliqué. Je pense que c'est une vision qui est un petit peu globale. Et le rapport de la santé avec l'entreprise est compliqué. Pour sortir un petit peu simplement de ce champ, mais je vais y revenir sur la santé et la prévention. Quand on s'intéresse par exemple à la recherche, on voit bien que, comparativement à nos collègues anglo-saxons, où la recherche académique est très facilement en liaison avec la recherche des entreprises, avec les entreprises, en France, c'est toujours compliqué. On a toujours un doute quand un chercheur fricote, oserais-je dire, avec les entreprises. C'est une erreur. Bien entendu, il faut que l'on travaille avec les entreprises. Dans le domaine de la santé, c'est pareil. Et principalement dans le domaine de la prévention, bien entendu, c'est essentiel, puisque les entreprises regroupent le lieu de travail d'une majorité de professionnels, et il y a besoin de travailler main dans la main pour développer cette prévention, le bien-être au travail, la santé, parce qu'in fine, c'est rentable pour tout le monde. C'est rentable pour les entreprises en termes de diminution de l'absentéisme, je ne vais pas vous refaire toute la litanie. C'est rentable pour la société, si on se place d'un point de vue peut-être plus politique, parce qu'on va diminuer les coûts liés aux pathologies par la prévention. Donc oui, bien sûr, il faut travailler avec les entreprises. On a encore un peu de mal à passer ce cap de la prévention en France. C'est pas très latin. En plus, la prévention...
Ça, c'est encore un autre sujet. Ouais. On n'a pas les moyens de faire de la prévention, en fait.
Alors, on n'a pas les moyens parce que la temporalité de la prévention est une temporalité longue. Et malheureusement, la temporalité politique aujourd'hui est devenue une temporalité beaucoup plus courte. C'est la temporalité des réseaux sociaux, de la communication immédiate. Et se projeter à 15 ans, c'est compliqué. Moi, je suis ravi que le président de la République ait pris fait et cause pour la vaccination contre le papillomavirus, par exemple. Parce qu'on sait très bien que ce sera efficace dans 20 ans. Et appuyer cette vaccination...
Oui, alors pardonnez-moi, je vous arrête une seconde là, parce que je suis très contente aussi. Hein. Mais de quoi je me mêle ? Enfin, pardonnez-moi, il est président de la République. J'ai lu une interview dans Elle où il explique qu'il va faire une mission à l'Assemblée nationale pour la ménopause et qu'il nous impose des congés pour les règles douloureuses et que maintenant c'est une vaccination papillomavirus. Enfin, je veux dire, on a un président de la République qui est gynécologue ou quoi. Je veux dire, je comprends plus. C'est une parenthèse, mais ça veut dire beaucoup de choses parce que je comprends ses convictions, je suis d'accord. Pourquoi c'est lui qui s'en occupe et est-ce que ça n'explique pas finalement que l'entreprise soit écartée des décisions et que à la limite même y compris les ministres concernés, est-ce que c'est pas le mal français ?
Personnellement, je ne pense pas.
C'est pas facile, évidemment, pour vous, pardon, de vous poser cette question.
Non, mais vous savez, j'ai toujours une liberté de parole et je continuerai à l'avoir. Je pense qu'au contraire, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme une chance. Pourquoi ? Parce que ce sont des sujets de société. C'est-à-dire on a trop tendance à voir, par exemple, la vaccination contre le papillomavirus, on dit que c'est un sujet purement médical, etc. Non, ce n'est pas qu'un sujet purement médical, avec toutes les problématiques sur la vaccination, les antivax qu'on a connus. On voit bien que c'est un sujet de société. Moi, les sujets de société, ça ne me choque pas
du
tout.
Et vous pensez que c'est le président de la République qui doit s'en occuper ?
Mais que le président de la République, il ne s'en occupe pas, il donne l'objectif, il donne le cap.
Pourquoi il ne le donne pas à son ministre ?
Ah, mais il le donne aussi à son ministre.
Oui, mais par
exemple, je prends l'exemple de la vaccination papillomavirus, qui est celle que j'ai vraiment vécue avec lui. Moi, j'étais ravi qu'il s'en empare. Parce que quand le président de la République dit « Nous allons vacciner toute une tranche d'âge contre le papillomavirus », entre parenthèses, ça coûte 240 millions d'euros. Pour rapporter probablement de l'ordre de 300 millions d'euros, mais dans 20 ans. Bah, vous savez, c'est beaucoup plus simple après d'aller discuter budget. Hein.
Parce que moi, est-ce que ce n'est pas un dysfonctionnement français ? Vous avez raison, bien sûr. Vous avez forcément raison. Mais est-ce que ce n'est pas une forme de dysfonctionnement ?
Alors, c'est... Très probablement, le mélange que l'on doit réaliser et réussir en France entre politiciens et techniciens, oserais-je dire. On m'a reproché d'être plus technicien que politicien. Mais pour moi, c'est pas un reproche, je le revendique. Et il y a donc ce mélange qu'il faut arriver à créer.
Et quand vous dites ça, pardon, quand vous a reproché d'être plus technicien que
politicien.
Que politicien, et ça voulait dire quoi concrètement ?
Concrètement, il faudrait demander à ceux qui mettaient ça en avant, parce que ça, c'était
oui,
pas moi.
Non, mais pour vous, ça veut dire
non,
quoi?
Non, mais vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est effectivement les énarques qui décident avec les énarques, les médecins qui décident avec les médecins. Vous avez dit, il faut un peu des deux. Il faut du technicien et du politique.
Et du politicien
qui va organiser tout ça. En tout cas, vous êtes très clair sur une chose et vous venez de le redire, la temporalité du monde politique n'est pas celle de la santé.
Eh oui,
et on le dit, puisque quand on parle de valse des ministres, vous-même, François Bonne, vous êtes resté finalement une grosse année
dans
votre
ministère. Oui, ce qui est pas mal ces derniers temps.
Ce qui est peut-être pas mal. Il y en a qui font plus court. Néanmoins, on se dit, vu les enjeux, vu les coûts, 300 milliards, donc c'est quand même 10% du PIB de la France chaque année, est-ce qu'on est à la hauteur et est-ce qu'on ne devrait pas avoir, je ne suis pas un fanatique du Gosplan, mais un retour quand même à quelque chose de transpolitique qui est un axe pour 10-15 années.
Pour moi, la santé n'a pas de parti politique, je l'ai toujours dit. Bon, tant qu'on reste dans l'axe républicain, il faut quand même être raisonnable. Donc, on n'a pas.
Il faudrait l'être, mais je suis convaincue que parce que le président l'a dit, il y a des gens qui vont être contre la vaccination du papillomavirus. C'est ça qui est terrible.
Peut-être. Oui. Après, cette question de temporalité, pour moi, elle est effectivement majeure parce que vous savez qu'on rediscute le budget de la santé tous les ans. C'est infernal. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. Moi, il a fallu que je m'y mette. Hein. Je n'étais pas un grand spécialiste du budget de la sécurité sociale. C'est compliqué, ça prend énormément de temps. Et même si maintenant, ce fameux PLFSS, on a sa progression dans les années à venir de façon globale, je reste persuadé qu'il nous faut une loi de programmation de santé sur 5 ans, comme la justice, comme l'intérieur. Il faut qu'on sache où on va. Il faut que l'objectif, in fine, soit clair, qu'on accepte cette temporalité plus longue dans le domaine de la santé comme dans d'autres domaines. Et c'est difficile. C'est difficile parce que la pression, c'est pas les politiques qui sont responsables, mais la pression de la société veut des résultats immédiats. On vous dit, je veux un médecin, voilà, j'ai besoin de voir un médecin généraliste demain, et je veux voir un ophtalmologiste la semaine prochaine. Même s'il n'y a pas d'immédiateté à avoir cette consultation, et que dans l'absolu, 2 mois, c'est peut-être pas trop long et c'est peut-être raisonnable. Donc on a tout ça qu'il faut remettre en place, il faut donner des perspectives en disant voilà vers où on va. J'entends bien que pour la population, donc pour les politiques, dire qu'on aura plus de médecins dans 10 ans, c'est très compliqué. Comment vous voulez faire accepter ça à la population ? Donc il faut jalonner le parcours, il faut dire comment on va y arriver.
Oui.
Et ça, pour ça, il nous faut du temps. Il faut un petit peu de temps.
Oui.
Et c'est vrai que 12 mois, c'est court.
C'est vrai que 12 mois, c'est court, mais... Au-delà de ça, je vais vous donner un exemple pour revenir à l'entreprise, santé et entreprise. Bon, les arrêts de travail ont explosé.
Oui.
Alors, excusez-moi, on parle de tout. C'est la faute du patron, il n'y a pas de sens à ceci, ils sont un peu
fatigués.
C'est la faute
du médecin, c'est la faute des gens.
Non mais alors, excusez-moi, oui. Qu'est-ce que vous faites, l'ordre des médecins, quand on voit des médecins, moi j'ai eu dans ma propre entreprise il y a longtemps, un médecin qui avait arrêté 7 personnes le même jour. Qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur le ministre de la Santé, lorsque... ça ne concerne pas les médecins, de faire des arrêts maladie quand on en demande.
Oui, je pense qu'on est allé, alors c'est un avis personnel,
oui,
on est allé parfois très loin sur ce principe d'arrêt de travail pour des bonnes et des mauvaises raisons, c'est un petit peu compliqué. J'ai été frappé de visiter des entreprises qui ont leur, vous le savez, qui ont leur propre service de santé au travail à partir d'un nombre de salariés suffisant. Finalement, ça marche pas mal. Alors, on avait arrêté ça. Parce qu'il y avait eu des dérives, que les médecins se sentaient sous l'emprise du patron, entre guillemets, et que c'était mauvais.
D'ailleurs, il y a un médecin de la SNCF.
Ouais, alors médecin de la SNCF, c'est... Moi, mon père était médecin généraliste, était médecin de la SNCF.
Ah, mais oui, bon, j'ai eu un ami médecin de la SNCF
voilà,
aussi.
Il y était tous les matins, très tôt, et il travaillait très sérieusement, et j'ai aucun doute sur la façon dont il gérait les arrêts de travail. Mais après, c'est devenu très compliqué. Là aussi, c'est une demande de la société, c'est-à-dire la raison de burn-out, de difficultés psychologiques. Vous savez, on ne peut pas avoir le moindre... problème quelque part sans qu'on interpelle les services d'urgence médico-psychologique que je connais bien. Ils n'ont pas été faits pour ça. Ils ont été faits pour des catastrophes et des grands événements. Tout ça pour dire que nous vivons...
Enfin, même la médecine du travail, pardonnez-moi, ça ne va pas.
Non, mais la médecine du travail ne va pas. La médecine scolaire est déficiente. Voilà, on a plein de secteurs. On n'a pas assez de psychiatres, on n'a pas assez de pédiatres.
Oui,
on
mais
pas assez
quand etc., pendant etc., le Covid, je téléphone à la médecine du travail pour avoir des informations et qui me dit, ah ben non, ils sont... après le Covid, ils sont en télétravail.
On a des dérives. Ça va bien dans ce que je défends comme vision, qui est que notre système de santé n'est pas en crise.
Ah bon?
Alors quand je dis ça, tout le monde regarde avec des gros yeux, vous-même d'ailleurs. Non, il n'est pas en crise dans le sens où le problème profond n'est pas la crise. Nous avons un système de santé qui est en mutation. Il est en mutation comme notre société. Et ça va pour la médecine du travail comme le reste. Et le traitement de la mutation n'est pas le même que le traitement de la crise. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de diagnostic. Et je prends ma responsabilité là-dedans. J'ai fait la mission Flash sur les urgences, qui était une mission de traitement de crise, avec 41 mesures, etc. Ça, c'est du traitement de crise. La mutation, quoi que vous fassiez, elle avancera. On ne peut pas s'y opposer.
Oui, arrête quand même 2 minutes. Quand vous passez en moyenne 6 heures aux urgences, ce n'est pas de la crise ?
Ce n'est qu'un symptôme du phénomène de mutation. La mutation, pourquoi vous passez 6 heures aux urgences ? Pas 6 heures aux urgences parce qu'il y a effectivement 40% des gens qui se présentent aux urgences qui devraient être pris en charge ailleurs.
Ouais.
Parce que vous manquez de lits d'aval, parce que l'organisation entre l'activité programmée et l'activité non programmée est mauvaise. C'est pour ça, en fait. Dire il faut taper sur les urgences, non, les urgences, c'est que la partie émergée de l'iceberg, en fait. Par contre, sur ce phénomène de mutation, quel doit être, à mon sens, le rôle du politique ? Et je redis, je bats ma culpe sur des choses que j'ai faites qui étaient du traitement de la crise. Eh bien, c'est d'accompagner cette mutation, de favoriser ce qui marche et d'empêcher ce qui est une déviance.
Et vous en avez le pouvoir quand vous êtes ministre ?
Oui. Oui, il faut arrêter de fantasmer sur les... Le problème, il y a quelque chose qui est pour moi insupportable, c'est d'entendre c'est Bercy qui décide. Non, c'est pas Bercy qui décide. Bercy gère le budget de l'État et celui de la Sécurité sociale, qui est quand même le plus gros budget de l'État, comme on le gère dans un ménage. C'est-à-dire qu'il y a des choix à faire.
Enfin, c'est pas vous qui décidez de la vaccination papillomavirus.
Mais si, bien sûr que si. In fine, c'est bien le ministre qui l'apporte.
In fine, mais pas au début.
Au début, c'était dans le programme du président de la République et que j'avais aidé à écrire, donc je ne vais pas dire que c'est pas bien. Non, mais il y a des arbitrages financiers qui sont faits, vous le savez très bien, au niveau de Matignon. On gagne, on perd des arbitrages. J'en ai gagné, j'en ai perdu. Quand j'ai perdu des arbitrages, j'ai jamais dit c'est la faute de Bercy. C'est ma faute parce que j'ai mal défendu mon point de vue, peut-être. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre.
Enfin, et puis ajouter quand même que c'est pratiquement d'une infinie complexité. Je pense que vous l'avez touché du doigt avec un jeu sûrement de Mikados. Après, oui, on a aussi les contraintes exogènes, on va dire.
Européenne,
je reviens sur notamment. Enfin, on a l'impression quand même qu'on. Enfin, à un moment, toute la France s'était transformée en épidémiologiste. On prend conscience de cette santé, de son coût aussi, même si on paye rarement.
Tout est gratuit.
Même
c'est
si
dramatique.
On paye rarement. Plus largement, voilà, aujourd'hui, c'est quand même un bien commun qu'il faut préserver. Ça,
c'est un trésor. C'est un trésor, cette santé, notre sécurité sociale, c'est un trésor.
Oui,
qui
mais
permet
justement,
à tout le monde d'être
là,
soigné.
Vous mettez le doigt tous les deux sur quelque chose de très important. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et à la pharmacie, je me suis surpris à dire je voudrais payer mon Doliprane. Je veux dire qu'il y a un moment où cette gratuité. Alors, il y a évidemment toutes les exceptions possibles, les vraies maladies, les maladies chroniques, les gens qui ont. Etc. Mais c'est très exagéré, non ?
Oui, mais je veux dire, c'est pareil, je paye mon Doliprane.
Eh bien, moi aussi.
Ça coûte pas grand-chose pour dire.
Mais c'est symbolique, mais je suis d'accord, moi aussi.
Et je suis d'autant plus satisfait de le faire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas
se
le payer.
Exactement.
Et quand on parlait du reste à charge en disant on va l'augmenter, il y a des gens pour qui 2 ou 3 euros pour une boîte de médicaments, ce n'est pas possible. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Mais si, franchement. Je pense qu'il faut. Il faut se rendre compte que le fait d'avoir la sécurité sociale, par exemple, nous permet de soigner tout le monde, y compris à des tarifs qui deviennent, je ne vais pas dire prohibitifs, mais presque, quand vous avez des traitements très spécialisés à 500 000, voire 1 million d'euros par an, personne ne pourrait se le payer.
Enfin,
il suffit d'aller voir dans d'autres pays, d'aller voir aux États-Unis où on vous demande votre carte de crédit avant de commencer à vous soigner dans certains endroits, ou même dans d'autres pays européens, ça n'a rien à voir.
Qu'après, et on soigne gratuitement, et c'est certainement très bien, des gens qui viennent l'été pour aller à l'hôpital, qui se font soigner, qui viennent de l'étranger.
Oui, alors
il y en
après,
a beaucoup, hein, quand même.
Oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, la problématique est plus dans des gens de l'étranger qui viennent se faire soigner en France que dans la problématique de l'AME. Ça, je tiens qu'il faut le préciser. C'est-à-dire, l'AME est nécessaire et n'est pas un coût exorbitant par rapport.
Absolument.
Je vais donner un exemple. C'est-à-dire, le système de santé anglais, on sait comment il est. On a des gens qui viennent se faire poser leurs prothèses de hanche en France, qui sont britanniques, parce que c'est plus rapide, c'est plus facile, etc. Alors. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe. Alors, on est censé retrouver le budget dans les pays concernés. C'est pas si simple. Mais enfin, bon, on y arrive. Je pense qu'il faut garder absolument ce socle social et ce socle de la sécurité sociale. Qu'après, il faille travailler sur notre système de santé pour plus d'efficience. Ça, c'est certain. Qu'il y ait, je vais pas utiliser le terme gaspillage, mais qu'on puisse trouver des sources d'économie dans le fonctionnement de notre système de santé, c'est une évidence. Sortir, on parlait tout à l'heure, vous parliez des cliniques. Moi, je suis intimement persuadé qu'il faut que nous sortions de cette logique d'offre de soins pour aller vers une logique de réponse aux besoins de santé de la population. C'était d'ailleurs ce que nous avions porté. Mais c'est ce qui veut dire que dans un secteur où, je reprends mon exemple de la prothèse de hanche, par exemple, la clinique X fait très bien la prise en charge de la prothèse de hanche. Quel intérêt que l'hôpital Y à côté se dise « je veux faire de la prothèse de hanche également ». Et qu'on entende des choses aberrantes dans les directions d'hôpitaux publics qui sont les parts de marché. Moi, je suis désolé, ça ne colle pas, c'est pas possible. Donc nous ne devons plus être dans un mode concurrentiel.
Enfin, en même temps, c'est pas un gros mot, les parts de marché.
C'est pas un gros mot, mais...
La santé est un marché.
On ne doit plus être dans un mode concurrentiel. Parce qu'on n'a plus les moyens d'être dans un mode concurrentiel. On n'a plus les effectifs. C'est pas un problème financier, c'est un problème de ressources. Nous n'avons plus les effectifs pour dire on va être concurrentiel et on va développer la même activité que les voisins.
D'accord, ça je suis d'accord.
Donc nous devons travailler en complémentarité. Et ce travail en complémentarité sera beaucoup plus efficient et permettra de générer des économies.
Et donc il faut encourager le privé.
Il faut encourager cette complémentarité public-privé. Il faut encourager notre système de santé qui marche sur deux jambes. Je l'ai toujours dit et je le répète. Une jambe du service public hospitalier qui est quelque chose de majeur et une jambe du service privé.
Vous avez, c'est très sage, mais nous avons deux domaines où ce n'est pas du tout appliqué et où le privé je représente là ce matin, mais n'est pas reconnu à sa juste valeur, c'est l'enseignement, l'éducation nationale et la santé. Or, l'éducation nationale, on mettait dans le privé les enfants qui étaient des cancres il y a 25 ans, et maintenant, on met les cancres dans le public. C'est devenu l'excellence, la voie du privé. Et la santé, l'hôpital, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour l'hôpital, mais les cliniques, c'est aussi formidable. Attendez, oui. pendant le Covid, en tant que responsable patronale, j'avais les représentants de la santé privée qui appelaient en disant « On a tout pour les réas. On a mis 4 mois à ce que l'hôpital accepte d'envoyer des malades de la Covid dans le privé. » Ils avaient tout.
Dans le Grand Est, on a mis 4 jours. Et encore, parce probablement que vous y habitez. 4 heures. Non, mais parce qu'on a été
à Paris, on a mis 3 mois.
On a été au front sur la première vague. On a tout de suite identifié que de toute façon, on pouvait pas s'en sortir tout seul, et on a travaillé en totale complémentarité.
Alors comment ça se fait justement, super, mais pourquoi à Paris on a mis 3 mois?
Parce que c'est plus grand, parce que les capacités sont pas les mêmes, et puis ce sont des affaires d'hommes.
Je veux dire,
il faut pas. Oui, bien
ça
sûr.
Ça dépend de qui, par exemple.
Ça dépend du réanimateur de l'hôpital public et du réanimateur de la clinique privée.
Ah oui.
Quand ils travaillent au quotidien ensemble, c'est beaucoup plus facile de travailler en situation de crise ensemble.
Et alors, pour résumer un peu ce qu'on dit, qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise? Qu'est-ce que on pourrait faire? On pourrait faire plus, pourquoi pas, mieux, en quoi des choses concrètes?
J'attends une chose simple: même droit, même devoir. Ça semble basique. Je connais très bien le milieu privé et j'ai autant d'amitié pour Arnaud Robinet de la FHF que pour Lamine Garbi de la FHP. Il y a aucun problème.
Oui, mais là je vous parle de l'entreprise lambda.
Ah, l'entreprise lambda.
Non,
d'accord,
l'entreprise lambda. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise de maintenant et dans les 10 ans qui viennent pour nos salariés?
Mais j'allais dire, qu'est-ce que la société attend de l'entreprise dans le domaine de la
tout.
Santé? Et on voit bien, alors peut-être pas tout, mais on voit bien que les salariés se tournent vers l'entreprise pour leur bien-être au travail et in fine la santé
mais
au
mais
travail.
Mais attendez, on peut pas écouter la société dans ses désirs les plus fous. Parce
non.
qu'elle veut aussi ne pas aller dans l'entreprise, elle veut aussi y aller quand même parce qu'elle déprime, elle veut aussi que ce soit le vendredi, les RTT. Non, là, je crois qu'il faut mettre des freins et je ne suis pas d'accord.
Il faut empêcher les mutations de gènes néfastes et il faut favoriser les bons. Quand je suis allé dans une entreprise que vous connaissez, qui est dans l'Est de la France, qui est une entreprise de pointe en termes de câblage, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire en termes de médecine du travail.
Dites-nous le nom de l'entreprise.
J'ai plus le nom en tête.
Ah bon,
puis je veux pas faire spécialement
d'accord.
de la publicité, mais c'est les gens qui sont dans le domaine du câblage, ils câblent aussi bien les robots qui vont sur Mars que le cœur Carmat. Voilà, donc c'est une entreprise qui est très très pointue, qui a mis en place une santé au travail remarquable, avec de l'exercice physique tous les jours qui prime sur le temps de travail. Enfin, on voit bien, j'ai rencontré des salariés heureux, un patron ravi parce qu'il a une meilleure efficience de ses salariés dans ce contexte. Je pense qu'on a du gagnant-gagnant à faire sur ce domaine. C'est peut-être ça que j'attends des entreprises. C'est que vous disiez, on ne discute pas assez avec les entreprises. Eh bien, discutons avec les entreprises. Moi, j'avais rencontré les représentants de l'entreprise. Alors, pas assez, c'est sûr. Mais discutons avec les entreprises pour que cette logique de prévention, qu'elle soit primaire ou qu'elle soit secondaire, cette logique de bien-être au travail, elle profite à tout le monde. Elle profite à notre système de santé, elle profite aux salariés, et elle profite également aux entrepreneurs.
Ouais, car comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sophie, en introduction, un salarié qui va bien, c'est une entreprise aussi prospère. Évidemment, quand on est
Je suis
heureux.
Entièrement d'accord.
Merci François Braun, Monsieur le Ministre, d'être passé par notre plateau pour ce colloque éthique et cette conclusion. Voilà, vaste chantier. On résume d'un mot, hein, essayer de se créer quand même la santé dans un temps long. C'est votre point et votre...
Ce qui pour un urgentiste est le comble.
Oui,
c'est
vrai.
C'est justement parce que je connais bien le temps court que je peux me projeter sur du temps long.
En introduction, on avait...
Patrick Aron, oui. Recite son petit bouquin « Travailler heureux, philosophie du bonheur au travail ». Et puis, si vous voulez l'entendre plus davantage, eh bien, une conférence organisée par Loïc Le Foll, ce sera 18h à 21h.
Cercle Entreprise et Liberté, oui.
Cercle Entreprise et Liberté, Science, Doute et Industrie. Voilà où il sera. Ainsi s'achève notre colloque éthique sur la santé, quels enjeux pendant l'entreprise. Un grand merci à Sophie de Menton, initiative de ces excellents colloques. Merci à notre invité.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour un prochain colloque éthique.
Santé, quels enjeux pour nos entreprises? Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, jeudi 23 mai 2024.